L'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, l'instant addicto, Sophie Deloume, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Palierne. Bonjour Nicolas Palierne.
Bonjour Sophie.
Donc on poursuit notre parcours sociologique mensuel, on a pu voir un peu le regard sociologique la semaine dernière, et cette fois-ci on va voir le genre au féminin, donc l'alcool et le féminin, qui reste je pense un très très grand tabou encore, même si on nous dit que les choses évoluent un petit peu plus. On va déjà définir ce qu'est le genre, Nicolas Palierne.
Alors le genre, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis quelques années aujourd'hui, ce que c'est mis quand même de façon prépondérante sur l'agenda politique. Peut-être une définition que je remprunterai à la sociologue qui s'appelle Marie Buscato. On va parler du genre, qui ça va renvoyer finalement à tous les processus sociaux de production, de légitimation, de transgression et de transformation des différences sexuées de façon hiérarchique entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin, qui vise à naturaliser ces différences-là et à stigmatiser les comportements qui seraient contraires à ces normes.
Et au niveau de genre et santé, après la définition du genre, est-ce qu'on peut dire que les femmes sont plus vulnérables ou non? Pourquoi à un moment donné aussi l'occultation au niveau de l'alcool et des femmes, il y a une place quand même particulière par rapport au féminin, par rapport au rôle qui est attendu entre gros guillemets des femmes peut-être que c'est un produit qui montre le féminin différemment, qui peut le stigmatiser, c'est aussi particulier les femmes et l'alcool.
Oui, tout à fait, ça va conjuguer effectivement beaucoup de normes autour des féminités. Alors c'est pas seulement mon avis, hein, les études montrent quand même qu'il y a une plus grande vulnérabilité à dose égale. Globalement je schématise, mais lorsque les femmes boivent à dose égale, elles s'exposent davantage à développer des formes de cirrhose, des formes de cancer. Il y a une mortalité précoce qui va être plus grande également à dose égale. La difficulté, c'est que dans la réalité, dans notre réalité sociale, les femmes ne boivent pas des doses égales aux hommes. Donc c'est ça l'ambiguïté et le paradoxe du genre par rapport à ces questions d'alcool. C'est que globalement, les femmes à dose égale se montrent plus vulnérables que les hommes, mais les hommes sont plus exposés, c'est-à-dire qu'ils boivent davantage d'alcool que les femmes, ce qui explique que les hommes, globalement, meurent trois fois plus et sont trois fois plus nombreux à se faire soigner de l'alcool que les femmes. C'est là le paradoxe, et c'est assez difficile après de démêler tout ça. En tout cas, il faut spécifier à chaque fois de quoi l'on parle, oui. Mais c'est le grand paradoxe du genre par rapport à l'alcool.
Est-ce qu'on peut dire justement qu'on clive encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a une pathologisation de l'alcoolisme dès l'instant où la femme tombe véritablement dans l'alcool, et à contrario, il y a une émancipation des femmes, on a pu voir, hein, vous me disiez, hein, ces étapes de suffragettes dans les années 20, où la guerre de 14, de nouveau, a un coup de massue sur la tête des femmes, et après on a les 70s, où il y a une grande émancipation, où là on se dit que les femmes ont beaucoup plus fumé, beaucoup plus bu. Voilà, c'est un peu l'alcool, le féminin et un peu la tentative de révolution féministe par-dessus, à votre avis.
Alors, la question serait complexe, on ne va pas avoir le temps de tout développer ici par rapport à ces enjeux-là. Je l'avais dit sur l'émission précédente, on a construit historiquement, fin du 19e, début du 20e, en tout cas en Occident, l'idée que les femmes seraient naturellement sobres. C'est un peu paradoxal, en tout cas en France, et là il faudrait spécifier à chaque fois les époques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement, on va dire depuis la Seconde Guerre mondiale, on est plutôt sur une décrue à partir des années 60, et donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les femmes mouraient davantage de cirrhose alcoolique qu'aujourd'hui. Donc on est quand même plutôt sur une diminution par rapport à cet indicateur-là, donc ça tord un petit peu l'idée que les femmes auparavant ne buvaient pas et ne mouraient pas de leur surconsommation d'alcool. Et aujourd'hui, à l'inverse, je l'avais dit également, on a plutôt une tolérance par rapport à certaines formes d'alcoolisation, on exige moins une abstinence radicale pour les femmes-là. On pourrait estimer qu'il y a une moins forte stigmatisation à l'égard de certaines formes d'ivresse, et là encore je spécifie par rapport à certaines catégories de femmes. Donc ça donne un petit peu ces idées-là, ce qui ne signifie pas forcément que les différents stades d'émancipation des femmes ont nécessairement entraîné une explosion ou une augmentation de leur consommation. Par contre, ce qui importe, c'est qu'à chaque étape socio-historique où il y a eu des efforts d'émancipation, donc on peut penser effectivement aux différents conflits mondiaux, au féminisme de la seconde vague, ça a porté cette question-là sur l'agenda politique, en tout cas il y a eu des débats sur le plan de l'alcool, à savoir si ça a augmenté ou non leur consommation.
On pourrait se dire à contrario que les femmes buvaient moins, et je repense beaucoup dans un rapport de classe au niveau du monde ouvrier, les femmes ouvrières ont beaucoup travaillé au début du 20e, est-ce qu'on peut se dire aussi qu'un rapport de classe entre la bourgeoise, dont l'objectif était de se marier, et l'ouvrière où il fallait nourrir ses enfants, est-ce que là il y a un regard sociologique par rapport à un rapport de classe de la femme ouvrière? Je ne vais pas non plus cliver à mon tour, mais c'est un peu cette représentation.
La difficulté pour les sociologues aujourd'hui, c'est justement d'avoir accès à suffisamment de données qui arriveraient à spécifier à la fois les différents types de rapports à l'alcool et toutes les caractéristiques sociodémographiques. Là, on peine un peu, en tout cas moi je peine profondément, à avoir accès à des données suffisamment spécifiées pour avoir de vraies analyses croisées de tous ces rapports-là. Ce qu'on constate globalement, c'est que les femmes qui appartiennent plutôt aux catégories supérieures, les femmes diplômées, ont tendance à déclarer des usages d'alcool plus fréquents, mais néanmoins, quand on regarde les indices de mortalité, ce sont plutôt les femmes des catégories populaires qui continuent de mourir davantage. Oui. Donc là aussi, on retrouve un autre paradoxe. Et donc, ça associe beaucoup les discours sur l'idée que les femmes émancipées, les femmes diplômées auraient un rapport plus facile par rapport à l'alcool. Et je pense que les contextes d'alcoolisation sont différents. Parce qu'effectivement, quand on croise à la fois les questions des féminités, les questions d'appartenance de classe, on ne va pas forcément consommer là non plus de la même manière. On a souvent associé aux femmes des catégories supérieures l'idée d'un alcoolisme mondain et plutôt d'un alcoolisme misérable du côté des classes populaires. Et c'est vrai que ce serait intéressant, en tout cas, pour de vraiment se respécifier quel type de pathologie on développe, quel type de rapport à l'alcool, quelle signification on a dans ces différents rapports-là aujourd'hui.
On va faire une pause musicale, Nicolas Palerme. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 'Il y a toujours cette stigmatisation de la femme, le regard qu'on peut avoir en tant que sociologue de la femme qui consomme trop d'alcool. Consommer, d'accord, mais dès l'instant où ça consomme trop chez une femme, on se rend compte que ça peut basculer entre la femme dite facile du début du 20e et de la, on va dire, de la jeune femme étudiante maintenant ou jeune salariée. Ou dès l'instant, est-ce que le regard a changé par rapport à ça, ou on se rend compte que inconsciemment, collectivement, la femme porte toujours beaucoup plus de stigmates que le masculin?
Les ivresses féminines sont toujours davantage stigmatisées comparativement aux ivresses masculines. Ça perdure. On pourrait considérer qu'il y a quand même une plus grande autorisation des femmes, ce que j'avais déjà dit dans les émissions précédentes, notamment par rapport aux jeunes femmes, à certaines conditions. C'est-à-dire que les femmes sont autorisées à s'alcooliser un peu trop, à être ivres, à partir du moment où elles restent hétérosexuellement attractives. À partir du moment où elles transgressent cette norme qui est attendue, elles vont être d'autant plus stigmatisées. Donc on va retrouver quand même une stigmatisation plus forte du côté des ivresses, parce que ça va questionner les normes sexuelles entre les hommes et les femmes. Ça va questionner également les normes de parentalité, le fait que l'on soit père ou mère, là on va retrouver encore une asymétrie assez forte, donc on va toujours trouver plus stigmatisant qu'une mère puisse consommer plutôt qu'un père puisse consommer.
Ce sera une mauvaise mère, quoi.
Ce sera une mauvaise mère. Ce sera toujours l'image de la mauvaise mère qui va perdurer. Et on va retrouver toujours aussi l'idée que une femme consomme trop, ne peut plus s'occuper des autres, voire va être dangereuse pour les autres. On pense au fœtus, on pense aux jeunes enfants. Alors qu'on va pas forcément tout de suite d'emblée poser cette question-là pour les hommes ou pour les pères. Alors qu'en réalité, lorsqu'ils consomment trop, ils peuvent aussi être négligents à l'égard de leur entourage, voire être dangereux à l'égard d'un entourage proche ou moins proche
Il y aura une exigence par rapport au féminin, surtout celle dans la maternité. On garde encore cette image un peu judéo-chrétienne.
Quand on associe l'alcool aux femmes, on va retrouver encore des images très stéréotypées qui vont être encore la maman, la mauvaise mère ou la putain. C'est-à-dire la femme facile, la femme sexuellement disponible et accessible pour les hommes hétéros.
Et quand vous parlez de convergence, Nicolas Palierne, dans votre thèse...
Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. On va retrouver souvent un discours assez entendu que les écarts entre les hommes et les femmes seraient amenés à diminuer, voire presque à disparaître. Donc je le rappelais, on retrouve quand même des écarts encore très très forts aujourd'hui, moindres dans les jeunes générations, mais qui vont tendre à s'accroître à partir du moment où ils vont rentrer notamment en parentalité. On va retrouver encore des écarts accrus pour une asymétrie dans la division genrée du travail parental. Et donc cette idée de convergence va toujours d'une part laisser penser que les différences de genre ne seraient plus si déterminantes, parce qu'au bout d'un moment on arriverait à une égalité de genre. On en est très loin, je rappelle qu'il y a des écarts très forts, et d'autant plus vers les consommations les plus importantes. Et d'autre part, on ça laisse toujours penser que on a une certaine pensée anti-féministe qui va stigmatiser, qui va diaboliser les émancipations des femmes comme une fausse émancipation qui amènerait vers cette convergence-là, alors que là aussi, on en est très loin. Et ce qui est toujours assez étonnant dans le contexte français, c'est qu'on pourrait au contraire penser que en dépit de l'émancipation des femmes, on a observé plutôt une baisse générale de la consommation.
Alors ça, faut nous en dire un peu plus, là.
C'est-à-dire qu'on a toujours laissé penser que l'émancipation des femmes, en tout cas il y a un certain une idée sous-jacente qui laisserait penser que ce serait un petit peu la boîte de Pandore. Les femmes s'émancipent, donc le malheur doit arriver, les femmes vont imiter le comportement des hommes, ça va être catastrophique, elles vont pas s'occuper de leurs enfants, etc. Alors qu'aujourd'hui en fait dans le contexte français on est plutôt sur une baisse générale de la consommation, donc c'est pas forcément antinomique de voir une amélioration des conditions des femmes avec une baisse générale de la consommation.
Je voulais faire un petit zoom sur la honte, elle est autant au niveau du féminin que du masculin. On en reparlera pour la prochaine émission au niveau du masculin, des hommes. Mais est-ce que les femmes, il n'y a pas plus de honte? Est-ce que cette honte au niveau du féminin freine la prise en charge des femmes? Ça, ça me paraît important au niveau... Là, on retrouve le médical.
Alors, moi, je l'ai observé dans mon travail de recherche. Je l'observe également dans la littérature. On a une honte et un sentiment de culpabilité qui semble accru du côté des femmes. Là encore, par rapport aux normes qui pèsent sur elles, il n'y a pas forcément de choses positives à dégager d'une consommation importante chez les femmes. Tout de suite, ça va renvoyer, là encore, soit à la fille facile, à la fille dégradée, à la mauvaise mère. Et donc, c'est quelque chose qui pèse lourdement sur elles. Et il y a moins de facilité à aborder des consommations sous un angle positif du côté des femmes, alors qu'au contraire, les hommes peuvent plus facilement, là encore, évoquer leur consommation, voire leur surconsommation dans des registres assez banalisés, assez normalisés. Et il n'y a pas cette équivalence-là du côté des femmes. Donc, elles ont encore un sentiment de honte, de culpabilité beaucoup plus fort chez ces personnes-là.
À votre avis, comment ça pourrait évoluer de ce côté-là, par rapport justement à ce poids de la norme, à ce poids sociétal du rôle qui est donné à la femme? Vous disiez à un moment donné, dès l'instant qu'il y a une évolution, une émancipation du féminin, il y a toujours ce trouble qu'elles aillent vers un rôle masculin, ou alors il y a un peu le coup de massue, comme on disait, on a pu échanger en aparté ensemble par rapport au MeToo, on se rend compte qu'il y aura peut-être encore un coup de massue à l'égard du féminin.
Je pense que pour modifier ce regard-là, il y a un peu un double processus à œuvrer. Il faut d'un côté arrêter de pathologiser d'emblée les femmes, essayer de recomprendre, de recontextualiser leur consommation. C'est un peu ce que je peux dire à certains moments, il peut y avoir un effet double peine, c'est-à-dire que des femmes peuvent aussi arriver. Alors, il ne s'agit pas de victimiser à chaque fois, mais en tout cas, on peut quand même noter qu'il y a une partie de ces femmes-là qui, elles-mêmes, peuvent avoir souffert de violences, notamment de violences de genre. Donc, c'est un peu la double peine de dire, finalement, on les juge d'autant plus sévèrement, alors qu'elles-mêmes ont été victimes de violences qui renvoient des rapports de domination. Et à l'inverse, du côté des hommes, je pense qu'il faut débanaliser, dénormaliser leur rapport si étroit entre certaines formes de masculinité et l'alcool. Et je pense qu'il faut faire ce double processus-là, dépathologiser le regard porté toujours sur les femmes, et à l'inverse, dénormaliser le regard porté sur l'alcool avec les hommes.
Merci Nicolas Palierne.
Merci à vous.
À la semaine prochaine. l'instant addicto.